Du fait de la révolution technologique, nous allons changer de métier plusieurs fois dans notre vie et le métier que vous exercerez dans 10 ans n'existe peut-être pas encore. Je m'appelle Isabelle Rouen, je suis entrepreneur et fondatrice du cabinet de recrutement de dirigeants Colibri Talent. Tous les jours, j'accompagne des femmes, des hommes et des entreprises qui se transforment et qui transforment leur métier. Avec ce podcast des métiers du futur, je vous propose de rencontrer des dirigeants, des entrepreneurs, des chercheurs. Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les métiers du futur. Aujourd'hui, je reçois Fabienne Arata. Fabienne, depuis 2017, vous dirigez LinkedIn en France, premier réseau professionnel mondial qui offre des opportunités économiques à chaque professionnel. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur du recrutement. Bonjour Fabienne.
Bonjour Isabelle.
Bah écoutez, bienvenue au micro du podcast. Je suis absolument ravie de vous recevoir aujourd'hui. Et déjà pour commencer, je voulais vous demander de présenter un petit peu votre activité, surtout votre parcours.
Alors notre activité LinkedIn, comme vous l'avez souligné, effectivement notre ambition est d'offrir une opportunité économique à chaque membre de la population active mondiale, ce qui se matérialise par notre métier qui est de connecter chaque jour les professionnels entre eux et avec les entreprises. Aujourd'hui, LinkedIn en France, c'est 29 millions de professionnels connectés sur la plateforme.
Je crois que c'est plus de 90% de la population active, je crois quelque chose comme ça.
Absolument, et donc on fait partie du quotidien de ces 29 millions de professionnels qui viennent sur LinkedIn pour faire trois choses. Chercher un emploi, qu'ils soient en recherche très active ou tout simplement en veille, à l'extérieur de leur entreprise et de plus en plus souvent à l'intérieur de leur entreprise, puisqu'on y viendra peut-être, mais les enjeux de mobilité interne, tant pour les professionnels que pour les entreprises, sont particulièrement importants et ont vu une croissance ces dernières années. La deuxième des choses qu'ils viennent faire, c'est cultiver leur réseau professionnel, le construire, le nourrir, l'entretenir. Évidemment, pour adresser le premier sujet, mais pas seulement, pour aller chercher de l'information, pour se renseigner, pour apprendre. Et puis le troisième sujet, c'est accéder à du contenu, à de l'information professionnelle et économique. Et donc voilà notre activité à destination des professionnels. À destination des entreprises, nous les accompagnons sur trois de leurs grands enjeux, que sont évidemment la construction de leurs équipes, le développement de leurs talents, donc le recrutement, la formation en particulier, le développement de leurs activités commerciales, et donc comment utiliser LinkedIn pour contacter ses clients, pour nourrir une relation avec ses clients et ses prospects qui soit la plus qualitative et la plus intime possible. Et puis enfin, pour communiquer auprès d'une audience professionnelle, qui est l'audience qu'on trouve sur LinkedIn, pour une marque, pour un dirigeant, pour une entreprise.
Alors c'est absolument passionnant et on voit bien effectivement les deux volets, la partie qui s'adresse on va dire aux professionnels et la partie qui s'adresse aux entreprises. J'ai en tête qu'il y a d'autres parties prenantes aussi, il y a les écoles, il y a ce genre de public aussi, c'est important.
Absolument. En fait, si vous visualisez la colonne vertébrale de LinkedIn, ce que nous appelons la cartographie digitale des emplois et des compétences, vous avez effectivement en premier lieu ce premier point de données qui sont les 29 millions de professionnels avec chacun leurs expertises, les métiers, leurs évolutions de poste et leurs compétences. Le deuxième point sont l'ensemble des entreprises qui sont connectées et qui interagissent sur la plateforme et qui postent leurs offres d'emploi. Un peu plus de 850 000 entreprises en France sont présentes sur la plateforme.
Et combien les d'offres écoles, d'emploi par an?
Alors, c'est très variable.
D'accord.
Ouais, mais le chiffre important, c'est 6 recrutements par minute.
6 recrutements par minute, d'accord.
Ouais,
c'est énorme.
Ouais.
Et les écoles,
les écoles. Donc, les écoles qui sont représentées, plus de 100 000 écoles au niveau mondial, un peu plus de 13 000 en France, si ma mémoire est bonne. Le point de données important également, c'est une taxonomie de compétences de 41 000 compétences normées, référencées, ce qui nous permet d'avoir un certain nombre d'études, de décrypter des tendances de fond et puis d'éclairer un certain nombre de politiques de recrutement et de formation, qu'elle soit privée pour les entreprises ou publique pour les institutions.
Tout à fait, et c'est vrai que cette taxonomie de compétences, elle est très utile. Moi-même, j'ai un autre métier, puisque podcasteuse n'est pas mon métier, c'est un hobby. Et moi, j'ai une partie, un volet recrutement. Effectivement, je me sers beaucoup des compétences sur LinkedIn pour pouvoir cibler les candidats qu'on peut vouloir approcher par approche directe. Donc, c'est vrai que LinkedIn, moi, est mon principal outil de travail.
Et je constate donc avec plaisir que vous avez déjà embrassé la tendance de fond sur laquelle nous travaillons maintenant depuis quasiment 2 ans, comme à peu près 40% des recruteurs qui est recruté par les compétences. Et on y viendra, parce qu'aujourd'hui, les professionnels se définissent non plus par leur CV, leur diplôme, leur poste précédent, mais par leur portefeuille de compétences et par leurs valeurs.
Alors, je suis très intéressée pour creuser ce point-là avec vous maintenant, parce qu'effectivement, moi, j'y crois beaucoup. Je ne sais pas si c'est majoritaire ou pas, aujourd'hui, dans les pratiques de recrutement, effectivement, cette approche par les compétences. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'un métier n'est jamais qu'un portefeuille de compétences, et c'est cette approche-là que j'ai sur les métiers du futur. Mm-hmm. Comment vous l'avez développée? Est-ce que vous l'avez théorisée, cette approche sur les compétences? Qu'est-ce que vous voyez qui change là-dessus aujourd'hui, en France en particulier? Parce que moi, j'ai l'impression que c'était très anglo-saxon. Comment ça se passe?
Absolument, nous l'avons théorisé depuis plusieurs années, puisque nous avons effectivement des équipes de data scientists qui travaillent sur l'ensemble de ces sujets, sur la construction des réseaux et puis sur la taxonomie des compétences, qui est le corpus de la donnée LinkedIn. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'à partir du moment où un recruteur commence à travailler selon les filtres compétences, aujourd'hui, je vous l'évoquais, à peu près plus de 40% des recruteurs partout dans le monde et en France également.
D'accord.
Les chiffres sont à peu près à l'étiage. Cela donne la possibilité d'ouvrir considérablement les viviers de talents, parce que vous allez chercher une personnalité et vous allez surtout chercher ce qu'on appelle des compétences transférables. Et donc, si je prends un exemple, vous êtes dans la grande distribution, vous cherchez un logisticien, vous allez pouvoir le recruter par exemple, dans l'industrie manufacturière. Ou vous êtes dans l'industrie hôtelière, vous cherchez quelqu'un qui sache faire de la relation client, vous allez peut-être aller les chercher dans les viviers de call center, par exemple.
C'est très intéressant parce que ça crée effectivement la mobilité. Moi, je me rends compte que je fais beaucoup de création de postes dans les entreprises et je fais exactement ça, effectivement, des transferts de secteurs, des transferts de compétences, de gens en général qui savent faire de la transformation digitale. Moi, je fais surtout des postes tech, data, IA. Et effectivement, peu importe le secteur, le sujet, c'est d'avoir déjà mené des grandes transformations quelque part parce qu'effectivement, c'est reproductible d'un secteur à l'autre, voire le fait de ne pas venir du secteur de mon client peut être un atout, parce que ça permet d'avoir un regard un peu décalé et un peu frais, ouais, et un peu nouveau.
Absolument. Ça permet effectivement deux choses. La première, c'est de pouvoir combler les déficits de compétences qu'on a sur bon nombre de sujets, en France en particulier, mais pas seulement. Donc les compétences digitales, les compétences vertes, qui sont en plus des compétences qui n'existent pas forcément encore. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis ça permet, et ça a été l'un des moteurs, je pense, pour les entreprises qui les a conduit à s'approprier le recrutement par les compétences, ça permet de diversifier les shortlists et de diversifier les viviers de talents. Je vais prendre un exemple, c'est celui des seniors. Aujourd'hui, lorsque vous recrutez par les compétences, vous avez la possibilité de multiplier par quasi 9, voire jusqu'à 15 sur certains secteurs d'activité, le nombre de seniors que vous allez pouvoir adresser dans votre recrutement.
C'est quoi un senior?
Alors, un senior, et même si ça ne me plaît pas tout
à fait... Est-ce que vous et moi, on est senior?
Alors, vous, je ne sais pas, je ne me permettrai pas, mais moi, c'est certain.
J'ai 48, moi.
Alors, c'est plus...
47.
Alors,
j'ai 47
je suis navrée, Isabelle.
Nous je sommes, suis senior.
Nous sommes toutes les deux dans les seniors.
Ce podcast devient une psychothérapie de groupe, tout va bien.
Plus de 45 ans.
Plus de 45 ans, d'accord. Donc c'est vrai que c'est important parce qu'on va travailler jusqu'à a priori 64 ans en France, un peu plus dans d'autres pays et peut-être un peu plus longtemps si les réformes se succèdent, on ne sait pas. Donc c'est important effectivement qu'il y ait l'employabilité sur les plus de 45. Et je sais aussi que vous avez pris beaucoup de positions sur les femmes et la diversité, c'est un mot que vous avez prononcé. Je sais que dans votre parcours chez Manpower, vous aviez créé un réseau de femmes. Est-ce que vous voulez aussi en parler un peu de ce que ça peut amener la diversité dans les recrutements et dans les shortlists?
Dans les recrutements, sans aucun doute, on se doit, dès l'entrée et effectivement dès les shortlists, d'avoir des viviers de talents qui soient le plus équilibrés possible et d'amener les femmes vers ces métiers. Pour autant, sur un certain nombre de métiers, en particulier les professions techniques et technologiques, ça se construit dès l'école primaire.
Ah mais tout à fait, dès le collège. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je fais de temps en temps des shortlists de DSI qu'on me demande de faire à parité sur un métier qui est à 13% de femmes. Donc, il faut aller chercher les talents dans ce cas-là.
Voilà, je pense qu'on a beaucoup de travail et c'est l'un des sujets sur lesquels on contribue également. Alors surtout sur l'enseignement supérieur, mais c'est de travailler sur les croyances limitantes, que ce soit celles des femmes d'une part, mais celles de leur entourage et celles de l'environnement, on va dire, éducatif et professionnel. Donc pouvoir effectivement, dès la phase du recrutement, avoir plus de femmes, c'est un peu une première étape. Pouvoir accompagner les managers sur le fait de porter un regard différent sur le fait de recruter des femmes et d'avoir des équipes diverses, alors pas seulement de femmes, mais on va dire de points de vue différents et de conduire une équipe très diversifiée sous cet aspect-là. Travailler l'inclusion, parce qu'il ne s'agit pas de les avoir en phase de recrutement, de les amener dans l'entreprise. Encore faut-il qu'elles puissent s'épanouir, qu'elles puissent s'exprimer et qu'elles puissent être elles-mêmes et porter une certaine parole opérationnelle, entreprise, etc., etc., sur un certain nombre de sujets, qui sera fort probablement différente dans leur approche par essence. Et puis ensuite, il faut les faire progresser. Donc moi, je milite, on va dire, sur chacune de ces étapes.
Et comment vous impactez sur ces histoires de croyances limitantes? Comment vous vous y prenez?
Nous nous y prenons de plusieurs manières. Je dirais qu'au cœur de l'ambition originelle que j'évoquais précédemment, le mot le plus important de cette vision d'origine, c'est le chaque de chaque professionnel. Et cela, ça se matérialise sur la plateforme, sur chacun des dispositifs produits, qui font que lorsque vous interagissez et que vous utilisez LinkedIn, l'ensemble de ces dispositifs vont être pensé pour éviter tous les biais possibles d'usage. Nous avions, je crois qu'il y a 5 ou 6 ans, analysé le fait que les femmes candidataient beaucoup moins que les hommes sur un certain nombre de postes et se fixaient justement une barre très très haute, probablement liée à des croyances limitantes, sur le nombre de compétences qu'elles devaient avoir pour pouvoir candidater. Et ça, on l'a quantifié de manière extrêmement précise et formalisée. Et ça nous a amené à pouvoir porter cette parole auprès des entreprises, auprès des recruteurs, auprès des femmes, pour leur expliquer, côté recruteur, comment est-ce qu'ils devaient phraser leurs annonces d'emploi pour qu'elles y répondent plus, comment est-ce que sur les entretiens, ils devaient les mener d'une certaine manière, comment mettre en exergue les valeurs de l'entreprise pour qu'elles puissent s'y reconnaître. Bref, un certain nombre d'ingrédients qui faisaient que les femmes étaient plus à même de candidater sur ces postes. On a beaucoup travaillé avec un certain nombre d'entreprises, en particulier du secteur énergétique, sur la féminisation des métiers de l'industrie de l'énergie. Et nous avons travaillé sur des aspects extrêmement pragmatiques, qui étaient la rédaction des offres d'emploi, la description des postes, la rédaction des messages qui étaient envoyés par les recruteurs, la manière de s'adresser aux femmes. Donc c'est énormément de détails.
Parce qu'en fait, effectivement, du coup, ça permet d'aller appuyer sur, on va dire, les points gâchettes qui vont faire qu'elles vont plus candidater sur des postes où elles auraient peut-être moins l'idée de le faire, alors qu'elles sont très attendues pour pouvoir féminiser les équipes dans des secteurs plus masculins. C'est très malin, je ne savais pas du tout que c'était fait comme ça. Et comment est-ce que ça va se passer dans le futur de LinkedIn? Alors, je ne sais pas ce que vous avez le droit de dire ou pas de dire, mais qu'est-ce qui change avec l'intelligence artificielle générative? Qu'est-ce qui est en train de bouger en ce moment sur la plateforme? Parce qu'on voit que la plateforme évolue sans cesse. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons?
Ce qu'il y a dans les cartons, je dirais tout ce qui contribue à amener une valeur sur les 3 ingrédients que j'évoquais précédemment, ou en tout cas les 3 sujets pour lesquels LinkedIn fait partie de votre quotidien professionnel
et personnel.
Et personnel parfois, qui sont chercher un emploi, construire son réseau et s'informer. Et tout ce qui contribue à vous accompagner dans votre parcours professionnel, quels que soient les moments de votre parcours, et tout ce qui contribue à accompagner les entreprises sur les 3 sujets de construction de talent, de développement commercial et de communication. Et notre essence, notre métier, il reste intact. Donc on reste très concentré sur ce propos originel. L'intelligence artificielle, effectivement, alors que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour LinkedIn parce qu'on l'utilise depuis plusieurs années et puis nous avons la chance d'être adossés à Microsoft qui est notre actionnaire et donc de pouvoir bénéficier de leur technologie depuis le tout début.
Et Microsoft qui possède 49% d'OpenAI, rappelons-le à nos auditrices et auditeurs.
Qui est très investi également de longue date et très en avance de phase effectivement sur ses travaux de recherche depuis très très longtemps. Ce que ça procure, je dirais que ça procure exactement la même chose que ce que ça peut vous procurer fort probablement dans votre vie quotidienne. Parce que j'imagine qu'on l'utilise maintenant pour beaucoup d'entre nous, sur mieux chercher de l'information et aller beaucoup plus vite pour aller chercher une information, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et puis, automatiser un certain nombre de tâches. Je vais prendre 2 exemples. Chercher de l'information. Demain, je pars à tel endroit. Comment est-ce que je prépare ma valise? Et ça, ChatGPT va me dire, voilà, je vais le prompter. Je vais lui dire, je pars 3 jours à Dublin.
Comment je fais? Qu'est-ce que je mets dans la valise? Voilà. Est-ce qu'il va faire froid ou
voilà.
chaud?
J'ai telle nature de réunion ou pas, ou c'est très perso. Qu'est-ce que je mets dans ma valise? Et alors ça, moi, à titre personnel, ça me soulage et ça me fait gagner un temps dingue. Et surtout, ça m'économise de la charge mentale. Qui est loin d'être négligeable. Et puis, à titre beaucoup plus professionnel, j'ai une réponse de mail à faire. Je vais utiliser Copilot qui va me le faire et je vais lui dire, bon ben voilà, je le veux dans tel style, je le veux en bullet point, je le veux en style un peu plus chaleureux. Voilà la réponse que j'ai à faire, voilà les quelques idées, il va me le faire. Et là aussi, ça va me gagner un quart d'heure, 20 minutes de cogitation sur comment je l'articule, surtout si ce n'est pas dans ma langue native. Voilà.
Alors, c'est très intéressant et il y a aussi une partie que moi, j'avais envie de creuser, qui est toute la partie LinkedIn Learning, qui s'est quand même beaucoup développé avec le temps. J'imagine que ça apporte au-delà de la valeur ajoutée de la durée de temps passé sur la plateforme pour les utilisatrices et utilisateurs. Comment est-ce que ça s'est poussé aujourd'hui? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de contenu localisé. Moi, j'ai eu la chance d'être approchée par les équipes Learning pour pouvoir faire du contenu en français. Donc, je produis pour LinkedIn. Je suis très fière de ça. C'est quoi la trajectoire sur cette partie-là qui est prévue?
La trajectoire actuelle, non pas prévue, elle est en résonance avec le besoin des professionnels d'une part et le besoin des entreprises d'autre part.
D'accord.
Le besoin des professionnels, il a particulièrement, on va dire, explosé à l'aune de la pandémie, où l'ensemble des professionnels en France, mais pas seulement dans le monde, se sont emparés, on va dire, de leur destin, de leurs compétences, et ont pris l'opportunité de cette période, un peu en parenthèse ou inédite, pour se dire, voilà, pour répondre à 3 questions qui étaient... Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment est-ce que je pense mon activité? Pourquoi est-ce que je travaille? D'où est-ce que je travaille? Comment est-ce que je veux travailler? Et donc, partant de cela, ils se sont dit, ben voilà, c'est quoi mes compétences à l'instant T? Et qu'est-ce que je dois développer? Et on a vu, on va dire, juste post-pandémie, sur LinkedIn Learning en particulier, mais sur l'ensemble de la plateforme et toutes les conversations qui ont eu lieu à cette période-là, énormément de sujets d'attractivité sur les sujets de formation. Et beaucoup de professionnels se sont formés sur des sujets éminemment nouveaux, que ce soit comment est-ce que je travaille en mode hybride, je suis manager, comment est-ce que je gère une équipe à distance, par exemple? Comment est-ce que je recrute à distance? Ça, c'était quelques sujets d'actualité à l'époque. Et puis, progressivement, ils se sont dit, bah voilà, c'est possible. Et non seulement c'est possible, mais cela m'intéresse et j'en ai besoin. Et en particulier sur les deux sujets qui sont aujourd'hui des sujets de compétences extrêmement importants, en devenir et qui permettent aux professionnels d'accélérer leurs évolutions de carrière sur un certain nombre d'aspects, qui sont les compétences vertes d'une part et les compétences sur l'IA d'autre part. De l'autre côté, en miroir, les entreprises ont saisi également cela parce qu'elles doivent construire des compétences qui aujourd'hui n'existent pas forcément sur le marché. Elles doivent également se mettre en posture de pouvoir construire des compétences dont aujourd'hui on ne sait pas ce qu'elles vont être, on les intuite, on ne sait pas quantitativement aujourd'hui les définir, et donc elles doivent être en capacité d'avoir une plateforme et une culture portant l'apprenance. Et ce que nous faisons avec, d'une part, les entreprises et d'autre part, les professionnels, c'est justement mettre à disposition ce socle, cette plateforme qui vous permette, lorsque vous êtes collaborateur dans une entreprise ou sur LinkedIn Learning, si vous avez l'accès à LinkedIn Learning, de faire trois choses, en gros, sur votre destin professionnel, en tout cas votre parcours de formation. Je veux me former pour être encore meilleur ou plus efficace dans mon job actuel et être un peu plus dans ma zone de confort ou gagner plus de temps. Ça, c'est le premier registre. Le deuxième registre, c'est je veux me former parce que j'ai envie de prendre plus de responsabilités dans mon métier. Je veux être manager, je veux être directeur, etc., etc. Et puis, le troisième route que vous pouvez envisager, c'est de vous dire, voilà, je veux me former parce que j'ai envie de changer de métier. Je suis, par exemple, contrôleur de gestion dans la fonction RH. J'ai envie d'être contrôleur de gestion dans la fonction finance, par exemple, ou dans une unité de production. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir changer de métier? Et partant de cela, donc vous allez lever la main pour dire, voilà, moi j'ai envie d'une mobilité ou j'ai envie d'une évolution. L'entreprise va pouvoir le prendre en compte et pouvoir vous mettre à disposition toutes les offres dans l'ensemble du groupe. Et Dieu sait si, dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, les parcours sont peu clairs pour un collaborateur ou peu visibles. Vous ne savez pas forcément qu'il y a une offre dans une autre filiale ou une autre usine qui peut être disponible, ou une autre région si vous avez envie de partir dans une autre région et de changer de vie parfois. Donc on va vous pousser ces offres uniquement en interne de votre entreprise. Et puis à l'inverse, qui est particulièrement important, c'est que les recruteurs de l'entreprise vont pouvoir avoir une vue complètement holistique des compétences sur lesquelles ils vont pouvoir recruter. Ils ne vont pas seulement chercher à aller chercher les talents à l'externe, mais ils vont pouvoir se dire, voilà, Isabelle aujourd'hui, elle est au contrôle de gestion RH, je cherche une financière, est-ce que je ne peux pas lui proposer ce rôle et la mettre dans la shortlist?
Ah, c'est hyper intéressant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent faire leur gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et avoir une approche, on va dire, interne sur la base de cette donnée-là, parce qu'elle est quasi exhaustive, en fait. Quand on couvre 29 millions des 30 millions de la population active, c'est ça qu'on est en train de se dire.
D'accord. Et l'économie graph ou la cartographie digitale des emplois et des compétences que j'évoquais précédemment, in fine, c'est une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en temps réel, puisqu'elle est mise à jour 5 millions de fois par minute.
Alors, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est ce qu'on a vu, nous, avec l'Observatoire des métiers du futur, c'est que malheureusement les référentiels de compétences dans les entreprises, en moyenne, ils ont 6 ans. Donc 6 ans, forcément, quand on voit comment ça a bougé, et le sujet, c'est totalement obsolète. Et donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on a quelque chose de dynamique.
Alors d'une part, ils ont 6 ans, et puis d'autre part, ils sont, on va dire, maîtrisés ou gérés par l'entreprise. Là, l'innovation de l'approche, c'est de dire, les collaborateurs s'en emparent.
C'est le talent qui gère.
C'est le talent qui gère et qui prend en main son destin. Et pour avoir travaillé depuis de très très nombreuses années avec la fonction formation et la fonction RH, moi j'ai le souvenir d'avoir passé énormément de temps sur les sujets qui consistaient à dire « Mais comment est-ce qu'on s'y prend pour avoir moins de no-show en formation ? Comment est-ce qu'on s'y prend pour s'assurer que les collaborateurs viennent se former ?» Aujourd'hui, on est dans un changement de paradigme où au contraire, il y a une demande. Ce qui change la vie,
ce qui est une bonne nouvelle, effectivement.
Considérablement.
Alors, c'est hyper intéressant. Et au-delà de ça, moi, j'ai en tête que vous avez d'autres responsabilités chez LinkedIn, puisque vous avez aussi la responsabilité des verticales gouvernement et académie. Alors, verticale, ça veut dire secteur dans le langage des plateformes, sur un périmètre IMEA et Amérique latine. En quoi est-ce que ça consiste et comment ça se passe?
Alors, ça consiste à accompagner l'ensemble de nos équipes commerciales qui ont en charge les activités de talent, donc les équipes commerciales qui accompagnent nos clients sur leurs enjeux de recrutement, de formation et évidemment de mobilité interne. Et donc l'ensemble de ces clients pour le secteur public et le secteur académique. En ce qui me concerne...
Les écoles et les administrations.
Tout à fait. Et puis, dans certains pays, les entreprises publiques ou parapubliques, donc l'ensemble des institutions, y compris les institutions internationales, comme l'OCDE, comme l'UNESCO, etc., etc. Et puis, tout le segment, ce qu'on appelle les NGO, donc le segment associatif, et en France, de l'économie sociale et solidaire. En ce qui me concerne plus particulièrement, donc j'accompagne les équipes commerciales sur la définition de notre stratégie et des ressources dont nous avons besoin pour accompagner nos clients de la meilleure façon possible, donc l'ensemble des ressources techniques et produits dont nous avons besoin, et puis aussi et surtout l'ensemble des partenariats que nous avons avec ces institutions-là pour leur mettre à disposition les données de l'économie graphe, pour réfléchir avec elles sur les tendances de l'emploi et des compétences et éclairer du mieux possible avec la donnée LinkedIn ce qu'il serait nécessaire de faire. Je vais prendre un exemple qui est français, ce que nous avions fait il y a quelques années avec Agnès Pannier-Runacher sur lorsqu'elle avait
l'industrie,
absolument, sur la féminisation, pour reprendre à dessein que je choisis cet exemple qui néanmoins date un peu, mais pour reprendre notre propos précédent, la féminisation des métiers dans l'industrie. C'est ce que nous faisons lorsque nous travaillons aux côtés de France Travail et de l'EDF pour travailler sur la construction des métiers de la filière du nucléaire en France. Donc c'est la contribution de LinkedIn aux enjeux économiques des pays dans lesquels nous sommes présents, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine.
Donc il y a un vrai rôle social et sociétal en fait, parce que du coup on peut toucher à une filière complètement de manière efficace.
Absolument, mais parce qu'in fine, la géographie, l'histoire économique, l'histoire industrielle d'un bassin d'emploi, d'une ville, d'une région et évidemment d'un pays, reflète, nourrit le monde du travail, les personnes qui y vivent. Et c'est éminemment poreux, je dirais, le lien entre l'emploi et évidemment la vie des professionnels dans un pays ou dans un bassin d'emploi.
Alors, on est complètement alignés. Et comme le podcast s'appelle « Les métiers du futur », j'avais envie de vous entendre sur le futur du recrutement, d'après vous. Qu'est-ce qui va changer? Alors, on a beaucoup parlé du recrutement par la compétence. Est-ce qu'il y a d'autres lignes qui sont en train de bouger?
Oui, la première ligne qui bouge, c'est cette vision holistique du recrutement qui consiste à dire je regarde mes compétences tant en interne qu'en externe. Et donc cette collaboration renforcée entre les équipes de recrutement d'une part et les équipes de développement des compétences en interne d'autre part. Et cette collaboration, elle est devenue, on va dire, beaucoup plus quotidienne et beaucoup plus naturelle. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis, dans le quotidien des professionnels du recrutement, on évoquait l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, nous avons chez LinkedIn des produits qui leur permettent de gagner un temps considérable grâce à l'utilisation de l'IA. Le fait, par exemple, qu'une annonce, une description de poste va être rédigée en fonction des compétences qui doivent être ciblées et en fonction, et c'est vrai pour la description de poste, mais c'est vrai également pour le message que le recruteur va envoyer aux talents qui seront possiblement intéressés par l'annonce en question. L'annonce, elle va être proposée par l'intelligence artificielle en fonction du succès que d'autres annonces sur des postes similaires ont eu dans le monde entier envers une cible particulière.
Donc il y a un retour d'expérience en fait qui fait bouger l'algorithme et le ciblage de manière comportementale, c'est ça qu'on est en train de se dire.
Exactement. Donc imaginez le temps considérable que vous gagnez et surtout le taux de succès
qui est supposé s'améliorer du coup, qui doit être bien meilleur.
Qui est nettement meilleur. Donc un temps considérablement gagné sur le sujet, ce qui m'amène à un propos complémentaire sur l'IA qui vaut pour les recruteurs mais qui vaut pour l'ensemble des métiers, qui est de se dire si le recruteur passe moins de temps à faire ça, qui n'est pas forcément le sujet qui l'amusait le plus.
On est d'accord, c'est la partie la plus, pas pénible, j'adore mon métier, mais c'est celle la plus chronophage et probablement celle à la moins de valeur
la
ajoutée.
La moins exaltante.
Mais voilà. Si on ne fait pas ça en démarrage de recrutement, on n'a pas ce qu'il faut après pour faire l'assessment des compétences, des soft skills et les entretiens.
Exactement. Mais donc, qu'est-ce qu'il ou elle va faire et à quoi il va passer son temps? Ben, évidemment, plus de temps qualitatif avec le candidat. Et aussi et surtout, plus de temps qualitatif avec les managers qui recrutent. Et donc, plus de conversation, plus de fond, plus d'intuitu personné, ce qui amène au deuxième sujet, qui est une tendance de fond sur l'IA, une conviction profonde que nous portons chez LinkedIn, au vu des conversations d'une part et au vu de la donnée d'autre part, qui est de se dire, il n'y aura pas d'IA sans compétences comportementales. Il n'y aura pas d'IA sans l'humain au centre de tout.
Les deux sont complémentaires.
Les deux sont complémentaires, mais je dirais que l'IA n'apportera pas ce qu'elle doit apporter s'il n'y a pas ces compétences comportementales. Et d'ailleurs, on le voit bien sur l'ensemble des contenus de formation qui, aujourd'hui, sont faits tant par les entreprises que par les professionnels. On est bien dans une croissance exponentielle de gains sur ce sujet-là.
Alors, c'est hyper intéressant. Et pour conclure, j'avais envie de vous demander quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail.
Je lui dirais, la première des choses, c'est... J'ai un mot qui me vient en tête, c'est rêve.
C'est un joli mot.
Voilà, c'est le premier sujet, mais en tout cas, réalise tes rêves. Et puis, je lui dirais surtout une chose que je disais à mon fils pas plus tard qu'hier, c'est, vous me pardonnez mon langage, mais c'est kiffe ta life, quoi. Je ne veux pas avoir l'air ridicule en disant cette phrase. Mais aujourd'hui, profite, forme-toi, apprends, sois curieux, regarde, va vite. Profite de relations, profite de ce que tu peux apprendre des autres, profite de ton réseau et ne te limite pas. Voilà, ne te mets pas dans un rail, ne t'enferme pas.
C'est un joli conseil. Et à quelqu'un en reconversion, vous suggéreriez quoi ?
La même chose.
La même chose.
Exactement la même chose. Alors, c'est probablement un peu plus compliqué parce que parfois, souvent, les personnes en reconversion peuvent avoir des contraintes économiques ou des charges de famille qui font que...
C'est moins fluide.
C'est moins fluide. Ou en tout cas, c'est un peu plus compliqué mentalement que de se dire, c'est quoi mon rêve et comment je m'y prends ? Tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir faire ça, donc il faut en être conscient aussi. Pour autant, le conseil très semblable que je donnerais, c'est appuie-toi sur ton réseau, construis tes relations et dis-toi en permanence que la personne qui est à côté de toi peut changer ta vie. Voilà, maintenant, demain, plus tard, et que la personne qui est à côté de toi, demain, aujourd'hui, plus tard, tu pourras aussi peut-être changer la sienne. Et cette notion de solidarité professionnelle qui m'est extrêmement chère et qui me fait me lever le matin.
C'est une très belle conclusion, parce que justement, dans mes questions rituelles de fin d'épisode, j'ai qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Donc là, j'ai ma réponse. Et qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit ?
Je dois avouer que j'ai la chance que peu de choses me gardent éveillé la nuit, à part mes fils. J'ai encore tendance à attendre qu'ils rentrent jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin. Donc voilà, donc j'ai un sommeil un peu léger. Mais à part eux, je dois dire...
Pas grand-chose.
J'ai la chance de pouvoir très bien dormir.
C'est quoi votre prochain projet ?
Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Alors mes prochains projets, je ne sais pas... En tout cas, ceux qui sont en cours et qui ne sont pas terminés.
Ça me va.
Je vous parlais de ce qu'on est en train de faire sur la filière des métiers du nucléaire, mais en gros, la réflexion sur laquelle on est en train de travailler est dans un écosystème public-privé, sur lequel je suis intimement convaincue que c'est en joignant les efforts publics et privés qu'on pourra y arriver en France, mais dans tous les pays. C'est la construction de filières.
D'accord.
Donc, nucléaire, hôtellerie, restauration, automobile, compétences vertes, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Le premier nature de projet. Et puis, j'en ai une un peu plus personnelle, puisque j'ai une amie qui m'a mis au défi, il y a un peu moins d'un an, elle m'avait donné un an pour le faire, j'en suis très très loin, c'est d'apprendre le basque. Donc, je suis en train d'apprendre le basque.
Génial.
Et voilà mon projet, donc j'aimerais bien pouvoir m'exprimer en basque en quelques temps, j'en suis très loin.
C'est un joli projet. De quel succès vous êtes le plus fière ?
Du prochain. On venait de parler des prochains, donc je serais extrêmement fière de pouvoir m'exprimer en basque dans très peu de temps. Extrêmement fière de pouvoir dire que nous avons modestement contribué à combler les déficits de compétences que nous avons en France et dans beaucoup d'autres pays sur les métiers verts. Je serais extrêmement fière de pouvoir me dire que les femmes en particulier se sont emparées du train des compétences vertes et de l'IA et des métiers émergents. Sur les succès passés, je dirais plutôt que c'est une succession d'actes quotidiens. Moi, je suis très fière et c'est ça qui me porte, de pouvoir m'endormir le soir de manière sereine en me disant « tu as été utile au moins sur 3 choses ». Voilà. C'est quoi les 3 choses très utiles que tu as fait aujourd'hui et les 3 choses que tu as fait pour quelqu'un d'autre ? Voilà.
C'est un joli mantra. C'est pas les 3 kiffs par jour de Servan Schreiber, c'est les 3 choses utiles pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez un contenu, un média, un documentaire, un bouquin, un podcast à conseiller à ceux et celles qui s'intéressent au futur du travail ?
L'ensemble des contenus que nous publions sur LinkedIn, sur ce que j'ai évoqué précédemment, qui sont les sujets de l'économie graphe, donc c'est très simple, on tape dans n'importe quel moteur de recherche connu ou moins connu, LinkedIn Economic Graph, et là on trouve toute la donnée mise à disposition sur le futur du travail. Mais
donc c'est en open data.
C'est en open, oui, absolument. Et puis l'une des pages favorites en ce qui me concerne, c'est LinkedIn Social Impact. Ce sont l'ensemble de nos activités en France et partout dans le monde à contribution sociale et économique. Ensuite, c'est un livre qui n'est pas si récent que ça, mais pour autant, moi, il me porte de manière très, très régulière parce qu'il est tellement en résonance avec ce que nous faisons d'une part et ce qui me paraît indispensable à plein d'égards. C'est un livre de Salomé Berliou qui s'appelle « Les invisibles de la République » et qui explique comment, lorsque vous êtes né, que vous avez évolué dans la France rurale ou périphérique, donc dans des villes de petite ou moyenne importance, vous avez beaucoup moins de chances et beaucoup plus de handicap à faire les études que vous avez envie de faire et avoir la carrière professionnelle que vous avez envie de faire. Et le dernier sujet que je recommanderais de lire, et qui est parfaitement d'actualité, qui complète ce livre, c'est le dernier rapport de France Stratégie sur le déterminisme social, qui met une nouvelle fois en exergue à quel point nous avons des sujets de déterminisme sociaux en France, sur lesquels nous travaillons de manière extrêmement, on va dire, acharnée. En tout cas, moi, c'est une passion, c'est un acte militant, ce qui me concerne, chez LinkedIn, et en particulier dans le cadre d'un projet que nous avons monté qui s'appelle l'Alliance Un Réseau pour Tous.
Super, et ben merci pour tous ces conseils et recommandations. Si nos auditrices et auditeurs veulent vous joindre, c'est quoi le plus efficace ? LinkedIn, j'imagine.
LinkedIn, une petite plateforme bleue que tout le monde a, en tout cas que 29 millions de professionnels ont sur leur mobile ou sur leur ordi.
Merci beaucoup Fabienne, à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.